Alors ce message, je l'intitule Pour le service de Dieu. Eh bien, vous allez comprendre tout de suite avec le témoignage du premier livre de Samuel au chapitre 1, les versets, le chapitre en entier, puis nous irons aussi au chapitre 2. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « L'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent, et revinrent dans la maison de l'Éternel, dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et le conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. » Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Tu me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. » L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et je lirai encore au verset 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » En soi, le texte, personnellement, je trouve tellement magnifique qu'il édifie quant à l'esprit de consécration à Dieu, l'esprit de vivre de Dieu et pour Dieu. Et voilà, c'est quelque chose de magnifique que ce témoignage de Anne. Alors le livre, le contexte, bien sûr, l'écriture donne tous ces récits dans un contexte. Le livre des juges a montré Israël en crise. Israël n'est pas dirigé, le livre des juges se termine par cette parole. Il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on observe dans ce livre des juges des situations absolument horribles. Donc Israël est en crise. Et Dieu, en fait, utilise des situations de crise personnelle pour remédier aux crises de son peuple. À travers cette histoire, mais aussi à travers celle qui la précède dans la Bible, Dieu prépare un temps nouveau où la crise va être totalement surmontée. Avant Samuel, il y a le livre de Ruth. Et dans le livre de Ruth, ça commence par un contexte de crise climatique. C'est une famine. Il n'y a plus rien qui pousse dans le pays. Et ça va amener une famille à vivre elle-même la crise. Un homme et sa femme vont partir avec leurs deux fils en pays étranger. Là, les deux fils vont se marier, mais le mari va mourir, les deux fils vont mourir, et donc la mère va se retrouver avec ses deux belles filles étrangères. Et c'est dans ce contexte que va être manifestée la foi de l'une d'entre elles, Ruth, qui avec sa belle-mère va revenir au pays d'Israël, à Bethléem. Et là, trois générations plus tard, eh bien, il y aura la naissance du bon roi d'Israël, David. Ici, c'est Samuel. Dieu prépare un nouveau sacerdoce pour remplacer celui qui est corrompu. Car j'ai sauté les versets 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrificateur, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël venant là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc les deux fils d'Élie, qui étaient censés donc exercer le sacerdoce, eh bien vont mourir et ils vont être remplacés par ce Samuel. Ce Samuel qui est né d'une situation de crise. À travers le livre de Ruth, nous voyons que Dieu est en train, à travers une crise personnelle, est en train de préparer l'avènement d'un nouveau roi. Et à travers le livre de Samuel, nous voyons qu'à travers une crise personnelle, Dieu est en train d'amener l'avènement d'un nouveau sacrificateur. Alors, pour l'avènement d'hommes nouveaux, eh bien, il faut la foi des femmes pour que Dieu puisse agir. Et donc ici, nous avons dans le livre de Ruth une femme a priori écartée des promesses de Dieu, puisqu'elle est étrangère, et qui pourtant va entrer totalement dans la confiance au Dieu d'Israël. Et c'est elle qui sera employée pour devenir l'aïeule de David. Une femme qui était capable de dire à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai, là où tu vivras, je vivrai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. C'est elle que Dieu a pu choisir, à laquelle il a pu faire grâce de devenir l'aïeule de David. Et ici, Anne, qui a dédié par avance, parce qu'elle était sans issue, qui a dédié par avance l'enfant désiré au service de Dieu. Et c'est par elle que ce nouveau sacrificateur a pu être mis en place. Exaucée, Anne entre pleinement dans la vision du Dieu Saint, puisqu'elle prophétise ce magnifique cantique où elle voit le Dieu Saint qui renverse les plans des dominateurs du monde, en fait, pour élever les humbles aux côtés du roi qu'il s'est lui-même choisi, puisque le cantique se termine, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son oint. Donc elle voit à l'avance l'avènement du roi par lequel Dieu va amener le royaume de justice qui est destiné à tous les humbles, à tous les pauvres, à tous les méprisés de la terre. Donc elle prophétise, on peut dire, en prémisse du cantique de Marie, puisque si vous prenez dans l'évangile le cantique de Marie, vous avez pratiquement les mêmes termes que celui du cantique de Anne. Donc les femmes de foi sont employées par Dieu, Ruth, Anne, pour l'avènement du monde nouveau, pour l'avènement du Fils béni, pour l'avènement du roi de justice. Elles ont leur corps consacré à Dieu pour cet avènement. Mais pas seulement que leur corps, puisque nous voyons par la prophétie de Anne que leur esprit est instruit de l'œuvre de Dieu. Elles reçoivent des révélations du Seigneur. Donc ce sont des femmes de foi qui permettent la projection de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Plus loin, bien sûr, il y aura Marie. Et à chaque fois, dans ce contexte, les hommes sont aussi à la hauteur de l'œuvre de Dieu, puisque les Boaz pour Ruth, Elkana pour Anne et plus tard Joseph pour Marie sont pleins d'égards pour leurs épouses consacrées à Dieu. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? En soi, le récit peut vraiment pénétrer le cœur des femmes en particulier. Aujourd'hui, des femmes chrétiennes, des mères chrétiennes, pour leur dire que, oui, elles aussi peuvent, dans la foi, engendrer pour Dieu. Mais il y a une nuance, c'est qu'effectivement, Ruth, Anne, travaillaient à l'avènement du Fils de Dieu, à l'avènement du roi. Elles engendraient pour lui. Et Ruth, littéralement, est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, maintenant, bien, la prophétie et les actions pour amener le Fils, le roi béni, ben, tout cela s'est accompli. Cela a abouti. L'enfant est né, comme Ésaïe l'avait prophétisé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. L'enfant est né, le fils a fait la volonté du Père, le roi est oint maintenant dans les cieux. Donc l'engendrement naturel ne semble plus nécessaire à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. Est-ce si sûr? La foi peut encore s'exercer dans la maternité et la paternité aujourd'hui, pour contribuer à préparer non pas la venue d'un homme, mais la venue d'un peuple de sacrificateurs. Dieu n'a plus besoin du roi, il n'a plus besoin du sacrificateur, puisqu'il l'a, il le possède. Mais en Jésus-Christ, Dieu se veut un peuple entier de sacrificateurs, un peuple entier de rois, pour partager le royaume avec ce Fils béni. Donc il est évident, bien sûr, que nous devons d'abord, personnellement, pour nous-mêmes, chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, être dans l'engendrement spirituel, permettre à Dieu de s'engendrer des enfants dans la foi, des enfants par l'Esprit. C'est évident que c'est cela l'œuvre de la Nouvelle Alliance, et nous y participons tous, que nous ayons des enfants naturels ou non. Nous sommes appelés à témoigner de la grâce de Dieu, à vivre la grâce de Dieu, et à permettre à Dieu d'engendrer son Fils en chacun de ceux qu'il veut amener au salut. L'apôtre Paul a cette expression tout à fait particulière dans son épître aux Galates, chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voyez comment l'apôtre conçoit son ministère. Un ministère d'enfantement pour que Christ soit formé en chacun des croyants. C'est cela notre première vocation à laquelle nous sommes appelés, nous, à participer. Déjà, laisser Christ naître en nous, et puis permettre à d'autres aussi que Christ naisse en eux par la découverte de l'Évangile. Mais pour autant, des familles entières sont concernées dans le Nouveau Testament, nous le voyons, par cet engendrement. Plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Lydie, par exemple, s'est convertie et qu'elle a été baptisée avec sa famille. Le centenier, un peu plus loin, s'est converti. Il a cru en Dieu avec sa famille. Donc immédiatement, les enfants sont impliqués dans cette foi nouvelle et deviennent même participants de la vie avec le Seigneur. Et puis, nous voyons Paul enseigner dans les Épîtres aux parents à instruire leurs enfants selon le Seigneur. Et inversement, il s'adresse aux enfants en leur disant de respecter leurs parents selon le Seigneur. Donc, dans la famille chrétienne, se joue aussi cet engendrement spirituel. Nous ne sommes pas seulement appelés à former des familles selon la chair, mais des familles aussi selon l'esprit, pour que Dieu puisse se préparer un peuple de sacrificateurs, un peuple qui participe au royaume préparé pour Jésus-Christ. Et puis l'enfant du chrétien est aussi appelé saint par l'apôtre Paul. Il dit, vos enfants sont saints, et il le dit à ceux qui ont, aux chrétiens qui sont unis à un non-croyant, et il n'hésite pas à dire que l'enfant du croyant est saint, il est sanctifié par son parent chrétien. Donc il y a une vraie relation également spirituelle qui existe entre le parent et l'enfant dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Peut-être notre participation à cette œuvre spirituelle dans le contexte de nos familles chrétiennes dépend de la manière dont nous regardons notre société. Est-ce que nous considérons notre société sous son aspect, on peut dire, triomphal, sous son aspect conquérant, sous son aspect de développement? Auquel cas, nous allons, on peut dire, inscrire nos familles dans ce développement, dans cette conquête, dans cette réussite, on peut dire, de la société. Ou alors, nous pouvons aussi considérer cette société comme étant réellement en crise, réellement en train de produire des fruits délétères qui vont amener sa chute. Et si, à ce moment-là, nous considérons que nous vivons dans une situation, dans un contexte, dans une société en crise, alors nous allons tout faire pour que Dieu puisse réaliser son plan de salut dans notre vie personnelle et dans la vie de nos enfants. Et en considérant que Dieu veut préparer un peuple saint, un peuple de sacrificateurs, un peuple qui participe à la royauté de Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra sur ce monde, alors nous allons aussi nous consacrer à cela, et nous allons aussi être dans cet esprit de prière et de consécration, et de vouloir, comme Anne, totalement consacrer nos enfants à ce service de Dieu, en pensant à ce qui vient ensuite, lorsque le royaume de Dieu sera établi et qu'apparaîtront ceux que Dieu a préparés. Et toutes nos situations personnelles de crise, eh bien, nous permettrons à Dieu d'y mettre sa main pour se constituer dans nos vies et dans nos familles un peuple, ce peuple nouveau, ce peuple qui participe au royaume de son Fils. Nous si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, nous dit aussi l'apôtre Paul. Ce qui était de toute façon l'attitude des saints de l'ancienne alliance, il y a finalement très peu de différence entre ceux qui vivaient la foi dans le contexte de la préparation au royaume et ceux qui vivent la foi aujourd'hui, alors que le royaume est paru en Jésus-Christ, mais qui n'est pas évident aux yeux de ce monde. Donc nous sommes tous toujours dans l'attente de la manifestation parfaite de ce royaume, et que Dieu nous donne et que Dieu vous donne, en particulier à ceux qui aujourd'hui présentent leurs enfants, que Dieu vous donne d'être dans cette pensée de recevoir de lui une famille qui lui appartienne totalement pour son royaume. Amen.